Vous avez sans doute déjà eu affaire à VLC. Cette icône du logiciel open source sortie il y a bientôt 25 ans était téléchargée plusieurs milliards de fois. Reconnaissable à son icône en forme de cône de circulation, il a comme particularité d'être léger et de pouvoir facilement lire n'importe quel fichier vidéo. Mettre sur pied un tel logiciel libre développé par une communauté de passionnés amène différentes contraintes. En plus de challenges techniques, il faut que le programme soit disponible sur toutes les plateformes et que tout reste sûr. Les plateformes d'Apple ont évidemment leurs particularités, et il n'est pas aussi simple de proposer VLC sur macOS que sur iPadOS. Alors comment l'équipe de VLC se débrouille-t-elle avec les plateformes d'Apple? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Kernel Panic. Pour en discuter, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Kempf, contributeur majeur de VLC qui va revenir sur la naissance et le développement de son projet. Salut JB.
Salut.
Et je suis également avec Pierre qui a récemment écrit un gros papier sur le décodeur David, créé sous l'égide des communautés de Videolan. Salut Pierre.
Salut JB, salut Félix.
Alors JB, une question que se posent sans doute les auditeurs de Mac Génération, est-ce que tu es un Apple user? Qu'est-ce que tu penses des produits Apple en général?
Moi je suis un utilisateur de tout. Ouais. C'est-à-dire que je fais du Windows, je fais du Linux, je fais du Mac, j'ai des Android, j'ai des iPhones, j'ai des téléphones un peu bizarres. Mais c'est vrai que dernièrement, je suis surtout un iPhone user et iPad user, parce que dans ma vie pro, en fait, j'utilise de moins en moins d'ordi et de plus en plus de téléphone. Et là, en ce moment, j'ai un iPhone 15 Pro Max que je vais bientôt remplacer.
Ok. Et ton setup de travail pour bosser, c'est quoi ?
Ça dépend beaucoup. Souvent, je suis avec un Linux sur un ThinkPad. Et le reste, c'est surtout mon téléphone. Je passe ma vie sur mon téléphone et sur mon iPad.
Okay.
Ce qui est rigolo, c'est que j'ai beaucoup de produits Apple. C'est-à-dire que j'ai des AirPods, j'ai un iPhone, j'ai un Apple Vision, j'en ai même deux.
Okay.
J'ai plusieurs MacBook Air Pro, j'ai un Mac Mini. Donc en fait, j'ai quand même beaucoup de produits Apple, sauf le HomePod, quoi.
Ok, ok. Est-ce que tu peux revenir sur la création de VLC? J'ai vu que Videolan, c'était un projet étudiant à la base.
Ouais, donc Videolan, c'est un projet étudiant qui est un projet qui vient de l'École Centrale Paris, qui a été géré par en fait des étudiants pendant très longtemps. L'idée à l'origine, c'est que c'était des étudiants qui avaient un réseau, c'est les étudiants qui géraient sur le campus de Centrale le réseau des étudiants, et ils voulaient un réseau plus rapide.
Ouais.
Que le réseau qu'ils avaient. Et ils ont demandé de l'argent à l'école pour avoir un réseau plus rapide. Principalement, ils voulaient jouer à des jeux vidéo. Et l'école leur a dit, non, nous, on finance pas ça. Le campus, c'est vous qui gérez. Et donc, ils sont allés voir des partenaires de l'école, et notamment Bouygues. Et à l'époque, TF1 leur a dit, faites du streaming vidéo sur un réseau, quoi. Mais on est en 94-95, c'est quasiment de la science-fiction. Parce qu'évidemment, ils avaient un réseau en token ring à l'époque. Et c'est ce qu'ils ont lancé. Ils ont lancé un projet qui s'appelait Network 2000. Mmh. Et le but, c'était de diffuser le satellite pour que les ordis soient capables de le lire.
Okay.
Et pour être très honnête, à cette époque, ton ordi, c'était un DX à 33 MHz et l'équivalent en 68000 ou en Power PC. Donc, c'était un peu de la science-fiction d'être capable de faire ça sur un ordi. Et c'est comme ça que ça a démarré le premier projet. Et puis il y a d'autres étudiants qui ont fait un deuxième projet qui s'appelait Videolan.
Ouais.
Et dans Videolan, il y avait plein de projets. Et un de ceux-là, c'était Videolan Client, qui est devenu VLC.
Ok.
Mais du coup, le jeu vidéo en question, c'est Doom, c'est ça?
Forcément, tu vois, quand en 94-95, quand tu commences à faire du jeu en réseau et tu te rends compte que ton token ring, il va pas, ouais, c'est forcément. Voilà.
Donc Doom, ça tourne sur à peu près tous les appareils maintenant et c'est à l'origine de VLC, quoi.
Tu peux le dire.
Pourquoi Kun comme logo, du coup?
Alors, je pense qu'on n'aura jamais la vraie réponse, parce que y a plein de légendes. La légende la plus probable, c'est, en fait, ils se sont retrouvés avec un réseau de très haute qualité, ATM, à 155 mégabits par seconde. Je pense que c'était un des meilleurs réseaux d'Europe à l'époque. Et puis, à un moment, ils ont une connexion à Internet qui était sur une T1, donc 1,5 mégabits par seconde. À l'époque, c'était absolument monstrueux. Et ils sont mis à télécharger, évidemment, les étudiants. Et il y a une étudiante qui s'est fait attraper par les majors. Et on est avant DATFI, UCD et les lois Hadoopi. Et à l'époque, c'est quand même du délit de contrefaçon. Ils ont eu peur que l'école veuille virer cette personne, puisque eux savaient qui c'était, puisqu'ils avaient l'adresse IP. Et ils sont allés en discuter à côté, et sur le chemin du retour, il y avait des travaux, ils ont pris un cône, ils s'en sont servi comme porte-voix pour aller parler à cette personne. Voilà. Ça, c'est une des raisons. Je sais pas si c'est la bonne raison, c'est la seule raison, mais elle me plaît bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand moi, je suis arrivé à Centrale en 2003, il y avait une collection de cônes phénoménale dans l'étage des gars qui géraient le réseau.
Ok.
D'accord.
Et du coup, le cône de Noël et le cône de Kill Bill, c'est arrivé après, c'est...
Bah, en fait, à un moment, donc VLC s'est devenu open source en 2001, puis vers 2005-2006, ça a commencé à être beaucoup plus utilisé. Et puis à partir de 2009-2010, ça a été monstrueux comme usage. Et on a codé pour rigoler, pour une version de développement, on a mis le cône de Noël et on a oublié de l'enlever.
D'accord.
Et donc voilà, donc ça c'était sous la version Windows. Et puis en fait, on a eu tellement de gens qui nous ont agressés à cause de ce cône de Noël qu'on a décidé de le mettre aussi sur toutes les autres versions. Donc il est aussi sous toutes les plateformes Mac et les plateformes mobiles.
Ok, ok. Tu bosses sur d'autres trucs à côté?
Ah oui, j'ai plein de boulot. Moi, j'ai créé plusieurs sociétés autour de VLC, autour d'FFmpeg et autres. Donc, j'ai 4 ou 5 sociétés qui gèrent à peu près 40 personnes qui font du support, de l'intégration du moteur VLC ou de FFmpeg dans plein d'applis.
Okay, ouais.
Et donc ça, c'est ce que j'ai fait en fait à partir de 2013-2014. Maintenant, j'ai été CTO de startup. J'ai été CTO de Shadow. J'ai été VP of Engineering de vente privée.
Ouais.
Et là, je suis en ce moment CTO de Scaleway.
D'accord. VLC, c'est une icône du logiciel open source. Ça fonctionne comment le développement d'un tel projet? Vous êtes une équipe de plusieurs développeurs à bosser dessus à plein temps?
En fait, pendant très longtemps, il n'y avait pas grand monde qui bossait sur le logiciel. À un moment, le projet, il n'y avait plus que deux contributeurs qui faisaient ça sur leur temps libre. Donc moi et Rémi, la core team, ça a toujours été entre 2 et 10 personnes. Quoi. Et c'est pendant très longtemps des gens qui faisaient ça sur leur temps libre et qui n'étaient pas payés. Depuis quelques années, ça a un peu changé. C'est une de mes sociétés qui emploie les plus gros contributeurs de VLC.
Okay.
Mais pareil, c'est une team qui est toute petite par rapport à la taille du logiciel et de l'impact. Et donc, on a beaucoup de contributeurs par contre. À peu près 100, 150 par an.
Ok.
Le côté open source, du coup, c'est lié au début dans l'école ou pas?
Pas du tout. L'école, en fait, refusait de le passer en open source. C'est-à-dire que le premier projet qui s'appelait Network 2000, il a fait de 95, 96 à 97. Et en fait, le projet aurait pu s'arrêter là. Et quand ils ont redémarré fin 98, le projet qui à ce moment-là s'appelait Vidéo sur un réseau local, donc VideoLAN, ils avaient comme but de le rendre open source. Mais ça a pris quasiment 2 ans à passer en open source parce que l'école voulait réussir à monétiser VLC et à revendre des licences, en fait. Et l'école disait qu'ils avaient l'ownership, en fait, de la propriété intellectuelle des étudiants. Donc, ça a mis pas mal de temps, en fait, à passer en open source. C'est passé en open source en 2001. Et là, il y a quelqu'un qui était pas de l'école, qui l'a porté d'abord sous Windows, et une personne, puis une autre personne l'ont porté sous Mac OS X. Et à l'époque, en 2001, il n'y avait pas grand-chose sous Mac OS X pour VLC.
Avant ça, du coup, c'était pour Linux ou pour des Unix en général?
Ouais, c'était une équipe qui voulait faire de l'open source, mais c'était vraiment des gens de l'open source Linux, quoi, des gens qui étaient habitués à PHP, Apache, Linux, en stack.
Et du coup, du point de vue financier, ça se passe comment? On a essayé de vous racheter?
Alors, ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, moi, j'ai fait sortir le projet de l'école en 2008, quand c'était le temps. C'est une association, loi 1901, qui ne vit qu'avec des dons. Donc, financièrement, on n'a même pas de quoi payer un ingénieur par an avec les dons. Donc, c'est vraiment une toute petite structure. On nous a essayé de nous racheter plein de fois, on me le demande souvent. Effectivement, j'ai eu des offres à plusieurs dizaines de millions d'euros pour racheter VLC. Ouais. Mais bon, c'est un projet open source, tu rachètes quoi? Principalement, tu rachètes la marque et le nom de domaine parce que il y a un énorme trafic et donc ça a de la valeur.
Ok. Pour le développement, vous privilégiez une version plus qu'une autre? Enfin, je veux dire, vous bossez autant sur la version Mac que Linux ou il y a peut-être une préférence pour Windows?
C'est pas les mêmes gens.
Ouais.
En fait, beaucoup de travail, il est fait sur le core. mais c'est statistiquement pas les mêmes gens. Il y a quelques... La version Mac, en fait, a très vite été très très bien gérée, parce qu'il y avait un étudiant hollandais qui s'appelait Derkian, qui a fait un vrai travail sur macOS. Et puis surtout, pendant très longtemps, VLC, c'était la seule façon de lire des DVD sous macOS. Puisque c'était même avant iDVD, il n'y avait pas le choix sous macOS. Et comme les mecs de VLC avaient cassé le chiffrement DVD, c'était comme ça que tu le faisais. Donc, il y a eu Derkian, et puis après, il y a eu un gars qui est arrivé, qui avait 15 ans, qui s'appelait Félix. Okay. Qui est toujours actif, qui est toujours actif dans l'assaut, et c'est lui qui a maintenu principalement tous les ports Darwin. Donc, tu vois, c'est... Et surtout, VLC, une des raisons pour lesquelles c'est facile à porter sur plein de plateformes, c'est qu'en fait, c'est vraiment des modules. T'as un core, et puis t'as plein de modules. Donc, toi, sous Mac, tu vas avoir une sortie audio, un module de sortie vidéo, une interface, mais 95% du code est commun.
Ok, ouais. Et t'as des différences entre les versions ? Il y a, je sais pas, la version macOS, il y a des spécificités qu'il n'y a pas sur Windows, par exemple ?
Ouais, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qui sont Mac only, il y a plein de trucs qui sont Windows only, et c'est des fonctionnalités relativement avancées. La plupart des gens, ça les intéresse pas. Il y a sous macOS, en fait, nous on supporte beaucoup de versions, et donc c'est parfois un petit peu difficile à maintenir.
Ouais. Et t'as une idée de la plateforme la plus populaire ? J'imagine que c'est Windows.
C'est Windows, hein, de très 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 loin. Quand tu regardes les téléchargements de versions de VLC sous Windows, chaque version, elle est téléchargée, on doit être à 400, 450 millions de fois pour une version. En général, sous Mac, tu peux atteindre 20, 25 millions.
Ouais.
Et je pense qu'aujourd'hui, la version iOS et Apple TV doit rattraper la version Mac.
Ok, ah ouais. T'as un avis sur la concurrence ? Sur Mac, par exemple, il y a IINA qui est très bien. Ils ont une interface qui est plus adaptée au code d'Apple, par exemple, qui est entièrement codé en Swift. C'est un truc qui vous intéresserait ?
Ouais, je regarde ce qu'ils font. J'ai un vrai problème avec ce logiciel, c'est que c'est pas toujours très très clair qui est derrière. Je pense qu'en tant qu'utilisateur, il y a beaucoup de gens qui ça les intéresse pas trop. Mais aujourd'hui, il y a des vrais sujets sur la confiance.
Ouais.
Et voilà, nous on est en train de refaire l'interface macOS intégralement.
Ok.
Qui serait un peu plus proche des standards Mac récents.
Ok, ouais.
Tu dis d'ailleurs ce qu'il y a des gens derrière. Du coup, j'ai vu qu'il y a des programmes de lecture de Blu-ray qui reprennent du code de VLC. mais comme c'est open source, enfin. Eux, ils ne l'indiquent pas, mais du coup, vous avez des recours. On peut faire quelque chose quand c'est comme ça ?
Oui, on peut toujours faire des choses, mais est-ce qu'on a envie ? C'est un peu la question. Mais il faut faire... effectivement, le problème du multimédia, et ça a toujours été un problème, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle VLC est devenu populaire au début, c'est que VLC, ça intègre tous les codecs, et donc c'est assez pratique. Et à l'époque, avant, notamment sous Windows et un petit peu sous Mac, t'avais ces histoires d'extensions de codec pack qui foutaient quand même beaucoup de bordel. Et donc c'est un vrai sujet de savoir qui est derrière un logiciel et qui le sera dans le futur. Une des raisons pour laquelle VLC est quand même très très déployé et surtout très très connu, c'est que c'est une association derrière, tout est clair, tout est transparent. On documente tout ce qu'on fait, y compris la façon de builder, et je pense qu'aujourd'hui, la confiance, elle est là, et ça, c'est un vrai sujet. Et donc, c'est pour ça que des trucs comme tous les lecteurs Blu-ray qui repackagent VLC, faits par des entreprises, on ne sait même pas où, parfois des trucs, notamment des sociétés chinoises, c'est assez compliqué d'aller les attaquer. Mais de toute façon, c'est un sujet important. Moi, je trouve que les gens ne s'occupent pas assez de savoir qu'est-ce qui tourne sur la machine.
Et la transition, du coup, vers les puces Apple, tout ce qui est ARM, ça a changé quelque chose pour VLC ? Ça a demandé beaucoup de travail ?
Non, pas trop, parce que en fait, ça s'est fait graduellement, parce que en fait, il y a eu le port VLC sur iOS qui a été mis d'abord par une boîte, puis ensuite par Videolan. On s'est fait takedown, on a remonté, on s'est refait takedown, Et donc, en fait, le corps de VLC, qui est quasiment commun à toutes les plateformes, il est déjà ARM ready. Donc après, c'est plus une question de compilation. Je dois avouer que le packaging macOS au moment de la transition a été vraiment pénible, mais ça se fait avec un peu de volonté.
Oui, c'est ça, parce que la question, elle était liée au fait que, alors je sais pas si c'est encore le cas maintenant, parce que du coup, je ne fais que mettre à jour, mais pendant un moment, en fait, il y avait une version x86 et une version ARM pour VLC, alors que pour beaucoup d'applications, c'était plutôt universel.
Oui, parce que nous, on a toujours une habitude de faire très attention aux ressources qu'on consomme, et notamment de l'espace disque. Et donc, en fait, une version FAT binary, beaucoup plus d'espace disque qui consomme.
D'accord, ah oui, d'accord. Il n'y avait pas une raison technique spécifique, c'est juste pour éviter que le programme soit trop gros.
Non, mais tu te rends compte quand même que VLC, qui est quand même beaucoup de fichiers, ton téléchargement, il est en dessous de 40 mégaoctets. J'ai toujours fait très très attention à ça. Sachant que n'importe quelle application, elle en pèse 400 quoi, au téléchargement. Mais moi, je pense que c'est important de faire attention aux ressources système. Et donc, c'était principalement la raison.
Du coup, les versions iOS, tvOS, vinOS, c'était un challenge. Et il y a une version watchOS ou pas?
Alors, évidemment, il y a une version watchOS. Hein. Il y a très très longtemps, on a une version watchOS de la version iOS. Le problème, c'est que ça détruit la batterie de ta montre. Hein. Moi, ma montre, elle tenait à l'époque, je crois, 12 minutes en regardant un film complet. Sur les versions récentes, moi, j'ai la dernière watch, je suis capable de faire 25 minutes, mais tu vois, c'est 25 minutes, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais. Donc, c'était un challenge. Je dois avouer, la version Vision Pro, c'est quand même pas simple. C'est très difficile de développer sur le Vision Pro. Les gens d'Apple sont au courant, c'est en train de changer. Mais ouais, ça a été assez difficile. La version iOS, iPadOS, finalement, pas trop. Là, peut-être que celle qui est la moins marrante, c'est l'Apple TV, parce que c'est beaucoup de frameworks qui sont assez différents de iOS. Je suis pas sûr d'être très très fan des kits de développement pour Apple TV. Je pense qu'ils pouvaient faire un truc beaucoup mieux et beaucoup plus proche de ce qu'on fait sur iOS.
Et vous n'avez pas de soucis vis-à-vis d'Apple? On sait que l'écosystème Apple, il est plus fermé que d'autres. Par exemple, il faut passer obligatoirement par l'App Store sur iOS, tout ça. Est-ce que ça pose des contraintes?
Ouais, donc la version VisionOS a été un peu la plus dure. Notre difficulté, en fait, elle est principalement du fait que nous, on est... Moi, j'essaye de faire fonctionner VLC sur beaucoup, beaucoup de plateformes. Ouais. Et par exemple, la version actuelle de VLC sur iOS, elle supporte iOS 9. Et Apple n'aide vraiment pas pour ça, quoi. C'est-à-dire que, et moi je suis assez furieux contre Xcode en général, c'est-à-dire que cette façon de lier les SDK, les OS, la version du compilo et l'IDE me gêne beaucoup, quoi. C'est-à-dire que VLC, ça montre justement que tu es capable de supporter plein de versions. La version actuelle de VLC, elle supporte macOS 10.7. On n'a pas de raison fondamentale, on est des modulaires, donc il n'y a pas de raison fondamentale de dropper les anciennes versions. Et donc ça m'agace un petit peu. Donc ça c'est un petit peu difficile. Apple TV, le kit de développement graphique Apple TV, il est vraiment trop différent de iPad et iOS. Et ça je trouve ça vraiment embêtant, alors qu'il y avait plein de façons de faire.
Ok, ouais. Et du coup, ouais, pourquoi VLC n'est pas sur le Mac App Store?
Parce que le Mac App Store n'autorise pas les applications open source, en fait.
Ok.
Donc, il y a plein d'applications open source qui le font, mais en fait, ça viole la licence.
D'accord.
Mais du coup, quand tu me parles des vieilles versions et tout ça, du coup, vous utilisez une vieille version de Xcode?
Oui et non. Pour compiler la version 3, oui, on a des vieilles versions d'Xcode, mais surtout, en fait, on hack un peu Xcode pour ramener les anciens SDK, et puis, en fait, on fait des workarounds pour pas utiliser certaines fonctions. Donc, c'est pas trivial. Ce qu'on fait est pas trivial et assez inhabituel pour sous macOS. Mais donc, tu vois, par exemple, la prochaine version de VLC, je pense qu'on passera de 10.7 à 10.11, tu vois. Donc on met 10.10, donc toi on garde un range très très large.
Ouais.
Et sous Windows c'est la même chose, hein, on supporte toujours Windows XP, Là, on va passer avec une version minimum à Windows 7. Donc, on a cette habitude, justement, de rester, parce que, de pas casser quand ça marche. Et d'ailleurs, très souvent, on nous dit « Ah, c'est trop bien, j'ai un iPad. iPad 2, bah, VLC tourne toujours.
» Est-ce que vous êtes intéressé par les boutiques alternatives là, qui ont ouvert dans l'Union Européenne? Est-ce qu'on pourrait imaginer voir VLC, par exemple, sur iPhone, en dehors de l'App Store?
Pour le moment, on n'a pas vu de demande.
Ouais.
Et ça reste négligeable. Mais il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas ou que quelqu'un le fasse pas. C'est open source, n'importe qui a le droit de le faire.
Ouais. Et le DMA, ça a changé quelque chose pour vous?
Pour le moment, rien du tout.
Ouais.
Je pense pas qu'on soit juste. Moi, je vais faire quand même une demande d'interopérabilité parce que l'application YouTube sur iPhone, elle a accès au décodeur VP9 matériel et nous, on n'y a pas accès. Mais quand j'en ai parlé avec Apple, ça semblait pas être un sujet de Discord, quoi. C'était plus, ouais, bon, il y a un entitlement dont on avait besoin. Il faut faire attention pour le faire fonctionner.
Ok, ouais.
Nos relations avec Apple, globalement, sont assez bonnes, hein.
Ouais.
Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé, notamment au moment de VLC sur le store iOS, mais nos relations sont assez bonnes. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le moteur VLC, donc VLC Kit, dans des applications sur iPhone, sur Apple TV, sur Vision Pro. Donc, ouais.
Ok, ah oui, c'est étonnant parce qu'on sait que ça peut être conflictuel avec certains développeurs, donc ouais.
Mais ça a été conflictuel, hein, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas de conflit. Juste quand on leur dit comment on compile VLC pour gérer autant de versions, ils trouvent qu'on est un peu des tarés, mais ça
ouais.
Moi, j'avais une question en fait par rapport aux licences, parce qu'à l'époque, ça avait fait pas mal discuter, même si ça date un peu. Vers 2012, en fait, Dolby s'était réveillé et demandait des licences pour intégrer le décodage du Dolby Digital, la C3. Est-ce que vous avez reçu une lettre d'avocat à l'époque?
Plein. Plein, ouais. Plein, mais moi, j'en ai toujours reçu beaucoup des lettres d'avocat. En général, je les ignore, je leur dis que j'ai mon droit et que je fais ce que je veux, parce qu'il n'y a pas de brevet logiciel en France. Mais les gens de Dolby, ouais, sont un peu agressifs.
Si je me souviens bien, à l'époque, vous aviez quand même dû retirer le décodage, parce que VLC sur iOS, du coup, était téléchargé depuis les États-Unis, c'est ça?
En fait, c'est ça. Le droit applicable sur l'App Store reste le droit californien. Mais dès que les derniers brevets sont tombés, on a rajouté le Dolby Digital.
Mais donc, en gros, quand il y a un problème comme ça veut dire que si tu télécharges VLC Mac depuis la France, ça passe, mais si tu télécharges VLC sur iPhone depuis les États-Unis, ça passe pas, c'est ça?
C'est exactement ça. On pense que c'est une mauvaise interprétation du droit, mais on n'a pas beaucoup le choix. Et c'est pour ça, justement, que notre téléchargement numéro 1 sur Mac, ça reste sur notre site web. Je suis pas très fan justement des App Store parce qu'en fait tu peux pas te défendre.
Est-ce que les fabricants ils viennent vers vous pour ajouter la prise en charge de certaines choses par exemple?
Bien sûr. Sous Mac pas trop, mais sous Windows oui très souvent. Hein. On a Nvidia, on a Microsoft, on a oh oui tiens j'ai ce nouveau codec, j'ai cette nouvelle carte graphique qui supporte ça. Donc non, mais très très souvent on a ça. Et puis il y a plein de gens qui fabriquent des nouveaux formats et ils viennent nous voir en disant ouais j'aimerais bien être capable de lire ça. Par exemple là il y a un nouveau format audio qui s'appelle Electra Audio, IAMF, et bah la seule version qui fonctionne sous macOS c'est VLC.
Et du coup, voilà, parce qu'en fait, je t'avais contacté à la base pour le dossier. Alors d'abord, on dit David ou Davoine, David?
Ouais, je sais pas, moi je dis David.
D'accord. Okay. tu m'avais répondu un peu pour le dossier, mais du coup, c'est quoi l'idée derrière le décodeur open source? À la base, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autres décodeurs quand vous avez commencé?
En fait, moi je pense que c'est comme le DVD. Le DVD, c'était bien et ça suffit à beaucoup de gens. Le Blu-ray n'apportait pas grand-chose de plus. Donc, quand tu arrives avec un nouveau format, soit il est vraiment révolutionnaire, soit il faut aider l'adoption. Et AV1, quand AV1 est arrivé, moi, j'avais dit qu'il allait falloir aider l'adoption. Et donc, il fallait un décodeur logiciel qui fonctionne parce que le hardware n'allait pas arriver avant un bout de temps. Et c'est effectivement ce qui est... et les gens de l'Alliance pour Open Media, notamment Google, m'ont dit mais si, t'inquiète pas, tout le monde va utiliser et avoir des décodeurs matériels AV1 dans tous les téléphones et toutes les machines. Et j'ai dit bah non, il faut faire un décodeur de très très haute qualité et surtout très très rapide. Et c'est ce que j'ai fait avec David. Et aujourd'hui, bah c'est probablement le logiciel de VideoLAN qui est le plus utilisé, parce qu'en fait c'est shippé par défaut dans Safari, donc dans sous macOS, et d'ailleurs une partie sur iOS. C'est dans toutes les apps YouTube, Netflix, Facebook, Messenger et tout ça. C'est sous Windows la seule façon de lire de la VR officiellement, puisque le décodeur Microsoft officiel s'est basé là-dessus. C'est dans toutes les versions de VLC, d'FFmpeg, de MPV, de tout ça. Donc ouais, je pense qu'il y a énormément d'utilisateurs, de fait, de David. Par contre, ouais, c'est 200 000 lignes d'assembleur écrites à la main, donc c'est quand même assez massif.
Oui, puis voilà, maintenant, voilà, en 2025, c'est quoi, c'est 7 ans après, on est là, il commence à y avoir un décodage matériel qui se généralise au moins dans les nouveaux appareils. Mais du coup, pour tous les gens qui ont des appareils plus anciens, ils ont que le choix de David. Parce que de ce que j'avais vu, le décodeur, c'est Google qui en avait fait un aussi, il est beaucoup moins performant, c'est ça?
Exactement. Et donc, effectivement, aujourd'hui, beaucoup de machines n'ont pas de décodeur matériel à rien.
Et tu dis que c'est dans Safari et tout ça, mais sur les appareils Apple, du coup, c'est pas utilisé pour décoder la vidéo, c'est juste utilisé pour décoder la partie image, non?
Alors, dans ce que c'est exposé, oui, c'est le cas.
Oui,
c'est,
voilà.
C'est principalement pour Avif sur Safari, mais je sais que parfois Apple l'utilise pour faire autre chose.
Oui, parce qu'en fait, nous, on avait le problème en faisant les dossiers où on ne peut lire les vidéos en AV1 que sur des mics qui ont un décodeur matériel. Alors que sur d'autres codecs, précédemment, ils avaient intégré un décodeur logiciel.
VLC, du coup, c'est un des plus gros logiciels libres du monde. Ça implique forcément tout un tas de questions de sécurité. Comme tous les logiciels libres, j'imagine qu'il y a de fausses versions vérolées de VLC qui circulent, par exemple. C'est quoi votre stratégie par rapport à ça?
À un moment, je passais beaucoup de temps à les faire tomber.
Ouais.
J'en passe beaucoup moins de temps maintenant, parce que j'ai beaucoup moins de temps qu'avant. Grosso modo, tu vois, c'est pas comme les histoires de lecteurs Blu-ray qui ont intégré VLC, ou bon, j'aime pas trop ce qu'ils font, mais c'est pas très grave. Ouais. Les versions vérolées avec des vrais spyware, j'essaie de les faire tomber.
Okay, ouais.
Il y en a beaucoup, beaucoup moins qu'avant. En particulier parce que Google en nettoie beaucoup, ce qu'il faisait pas trop dans le passé.
Et il y a déjà eu des tentatives peut-être, je sais pas, d'attaque interne, genre vu que le code est open source, quelqu'un qui essaierait d'envoyer du code vérolé dans la version
Alors,
officielle.
Alors du code vérolé, non, ouais. Et pourtant on fait très très attention, mais par contre des attaques sur nos infrastructures de téléchargement et essayer d'abîmer nos binaires, oui, il y en a eu beaucoup.
Ok, ouais. J'avais vu passer aussi des histoires de problèmes juridiques en Inde ou un truc du genre.
Ouais, tout à fait, à un moment... Il y a des hackers chinois qui ont utilisé des versions modifiées du corps de VLC pour pirater des ordis indiens, et le gouvernement indien a overréagi, a rien compris et a banni VLC, alors que c'était pas, tu vois, c'était pas une version de VLC, c'était, ils avaient pris du code de VLC. Non, c'était un peu n'importe quoi. Donc, ouais, donc j'ai attaqué en justice un peu le gouvernement indien pour rétablir ça.
Ok, et t'as gagné?
Bien sûr.
Et ouais, c'est quoi la suite pour VLC maintenant? Il y a une maintenance, enfin il y a une maintenance au quotidien par exemple?
Alors en ce moment, nous, on a un gros travail sur les plateformes Mac et Fini qui a été de switcher tout à Metal.
Ouais.
Tout est passé, tout le rendu est passé sous Metal et surtout il est unifié maintenant sur toutes les versions, que ce soit iPhone, iPad, Apple Vision, macOS.
Ouais.
J'ai dû oublier Apple TV. Donc vraiment, c'est le même décodeur vidéo et afficheur vidéo. Et même chose en audio. Donc on a vraiment remanié toute la sortie audio et vidéo sous Mac. Ça, c'est un gros travail. Et puis, pas mal de travail sur l'interface sous macOS.
Ok, ouais.
Voilà. Et après, beaucoup de... En fait, les gens ne voient pas, mais il y a beaucoup de nouveaux formats qui arrivent tout le temps. Et bah, nous, on met à jour pour récupérer les nouveaux formats. Les formats 4K et HDR avant c'était quand même négligeable. Maintenant ça devient moins négligeable, donc on travaille aussi pas mal pour que ce soit plus rapide.
Ok. Et tu parlais tout à l'heure aussi, tu disais que tu avais un Vision Pro, c'est un truc qui t'intéresse, enfin qui vous intéresse chez VideoLAN aussi, tout l'aspect VR, tout ça?
On avait fait beaucoup de VR quand c'était la hype. Moi j'ai dit de toute façon la hype elle va retomber, et post-hype il y aura des trucs sérieux qui sont arrivés, c'est effectivement ce qui est arrivé. C'est que ben, là, il y a l'Apple Vision, il y a le Quest 3, il y a les lunettes Meta, il y a les lunettes Spectacles.
Ouais.
Et tout le reste, en fait, est mort. Mais ouais, je pense qu'il y a un vrai sujet. Et notamment, moi, j'ai un projet qui s'appelle Kyber, qui fonctionne pas mal, justement, dans les casques VR.
Ouais, c'est pour les casques Quest.
Non, c'est une sorte de contrôle de machine à distance, une
D'accord.
sorte de parsec-like.
Ok.
Pour faire du remote desktop, du remote drone, du remote robot. Et c'est basé sur VLC FFmpeg et c'est
Ouais.
cross-platform.
Et VLC, t'as une version pour Quest?
J'ai une version pour Quest VLC, ouais.
D'accord, ok.
Mais on paraît qu'il n'est pas dans le store.
Ouais, qui est pas dans le store, ok, parce que j'avais testé le Quest et j'ai pas souvenir d'avoir vu un player VLC,
Non,
quoi.
c'est pas dans le store, parce que pareil, le store est.
Ouais.
Et sur Apple Vision, il y a un test flight.
Ok, ouais, d'accord.
Une question du coup sur les autres trucs à la mode, voilà, même si on verra, c'est. J'ai vu notamment qu'il y avait des projets d'IA pour la traduction des sous-titres. Je pense que c'est au CES que vous avez montré ça, non, je ne sais plus. Mais
Oui.
ça en est où ça? C'est quoi?
Ça marche très bien. Faut juste qu'on
D'accord.
fasse une release, mais ça marche très bien. Et ça permet de faire création de sous-titres et traduction de sous-titres en live.
Ok.
Mais du coup, ça repose sur une infrastructure, c'est géré directement par
Non, non, tout est en
VLC.
local.
D'accord.
Tout est en
Ah ouais,
local. C'est ça
ok.
qui est important. C'est que c'est l'inverse de ce que fait tout le monde. C'est-à-dire que tu dépends pas d'un service. Et ça marche offline. C'est vraiment important. Et ça, c'est vraiment ce qu'on fait avec VLC. Et c'est pour ça que les gens, ils se rendent pas compte. Ils font, ah ouais, mais ça marche pas comme je veux. Ouais, mais sauf que nous, on travaille sur le long terme. Nous, ce qu'on fait, ça marche forever. Et je pense que au long cours, c'est une stratégie qui sera gagnante. Tous les gens qui font de la fashion tech, sont habitués, mais je pense qu'on reviendra en arrière à un moment, parce qu'en fait, quand il y aura des services majeurs qui vont s'arrêter, même aujourd'hui, hein, tu te rends déjà compte quand Netflix ou Apple ou Prime n'ont plus accès à ton film que tu voulais regarder, parce qu'ils ont enlevé les droits, t'as que tes yeux pour pleurer.
Et ça demande une bonne config du coup pour la traduction en
Ça
local?
manque, ça demande un M2, ouais.
Ok, ah oui. J'avais vu un truc comme ça sur un émulateur, je crois. Tu mettais ta ROM et il te traduisait ton jeu en direct aussi.
Ouais, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais là, nous, ce qu'on fait, c'est speech to text, donc pour création de sous-titres et surtout traduction. Et ça, c'est et en live, et ça, c'est assez bluffant. Et
Ok.
ça marche sur tout ce que VLC est capable de faire.
Et c'est dispo en bêta ça quelque part ou c'est un truc qui va sortir dans quelques mois?
Ouais, non, on n'a pas packagé, c'est assez chiant à packager, notamment parce qu'il faut amener des modèles d'IA qui sont assez lourds, qui font plusieurs gigas.
Ouais.
Et donc, c'est plus une question de nous, on ne sait pas comment le distribuer que de dispo.
D'accord. Et les modèles, c'est quoi? C'est les trucs Whisper d'OpenAI,
Alors, c'est Whisper, une version modifiée de Whisper, et puis
non? Ouais.
d'autres modèles pour faire la traduction.
D'accord. Ok. Eh ben merci JB pour cet éclairage sur les origines de VLC et de son développement sur Mac. On espère que la discussion aura répondu à certaines questions de nos auditeurs. Je mettrai aussi le lien de l'article de Pierre sur David dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin. JB, merci d'être passé.
Merci à vous.
Pierre, à la prochaine.
Bien sûr, comme toujours.
Et nous on se dit à très vite pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.